Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Bienvenue, bonvenon. Esperanto magazino numero 317. Numero 317. Nous sommes le 3 avril, la 3 de aprilo. Esperanto magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontre, de reportage, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale.
Esperanto magazino estas unuhora elsendo parte en Esperanto, parte en la franca. Ne parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiun lundon de la 12 ĝis la 21 vespere en kanalsud.net. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la podcaston en toulouse.oxeo.net.
Vous pouvez nous écouter tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net.
Donc, à la technique ce soir, nous avons Marion.
Bonan vesperon al ciui.
Bonan vesperon. Quel vi fartas, Marion?
Très bonne, kai vi, Daniela?
Très bonne, d'ancon. Et aussi, dans le studio, aujourd'hui, nous avons Lenka, Dylan et moi.
Saluton.
Saluton. Quel vi fartas?
Bonne,
bonne, très bonne.
Bonne, bonne encore, d'accord. Et au programme ce soir, nous avons Kionovas, quoi de neuf. Nous allons parler de Théo qui cherche un nouveau graphiste, de la dernière formation pour enseignants de Poznan et de les albums de Gele chez Vinyl Cosmo. Et après, nous avons l'interview. Nous avons la seconde partie de l'interview par Marion de Xavi Alcade en français sur le lien entre l'espéranto et l'anarchisme. Et bien sûr, pour finir l'agenda.
Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto de tout style et de tout pays grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo.
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Kio novas?
Théo recherche un nouveau graphiste pour la revue Contacto. Le travail est effectué en ligne, donc les candidats de tous les pays peuvent postuler. Le travail consiste à définir et à gérer l'aspect graphique de la revue, à mettre en page les contenus en temps voulu et à coopérer avec les rédacteurs. Une expérience en mise en page et en graphisme est requise, ainsi que la capacité à travailler de manière autonome, sans supervision directe. Le salaire est de 250 € par numéro, 6 fois par an, et le lieu de travail à distance de chez soi. Les candidateurs sont acceptés jusqu'à 10 avril et doivent comprendre une lettre de motivation et un CV détaillant les compétences en mise en page et en graphisme.
Théo cherchas novan grafikiston por la revuo Contacto. La laboro okazas per interreto, do distance, do homoj el ĉiuj landoj povas kandidatiĝi. La laboro inkluzivas desegni kaj prizorgi la grafikan aspekton de la revuo, enpaĝigi enhavojn ĝustatempe kaj kunlabori proksime kun la redaktoro. Estas bezonata sperto en enpaĝigado kaj grafika laboro, kaj kapablo labori sen proksima superrigardo. Salajro estas 250 € por ĉiu numero sesfoje jare. Vi povas sendi vian kandidatiĝon ĝis la 10 de aprilo kun motivletero kaj vivrezumo pri viaj spertoj.
Le département d'interlinguistique de l'université Adam Mickiewicz de Poznań en Pologne, le site pédagogique educado.net et ILEI, la Ligue internationale des enseignants espérantophones, co-organisent à nouveau une formation pédagogique d'un an. Elle transmettra les connaissances et compétences nécessaires pour l'enseignement de l'espéranto et formera les participants à la pédagogie. Les cours demandent une participation à une session intense en présentiel à Poznań du 9 au 15 septembre 2023. Et les sessions suivantes se passeront en ligne avec du travail personnel et un dossier à présenter pour l'examen final. La formation coûte de 300 à 600 euros. La date limite pour candidater, c'est le 15 août 2023. Et si vous voulez enseigner l'espéranto, nous vous conseillons vivement cette formation.
La interlingvistika studoj de la Universitato Adam Mickiewicz de Poznano en Pollando educado.net kaj ILEI denove kune organizas unujaran instruistan trejnadon. Ĝi disponigas la necesajn konojn kaj lertojn pri instruado de Esperanto kaj trejnos la partoprenantojn pri metodiko. La kursaro postulas partoprenon unufoje en la surloka intensa semajna sesio en Pollando en septembro 2023. La sekvaj sesioj okazos rete kun hejmtaskoj kaj finlaboraĵo prezentota fine por la ekzameno. La partoprenkotizo altas de 300 € ĝis 600 €. La limdato estos la 15 de aŭgusto 2023. Se vi volas iĝi instruisto pri Esperanto, jen bonega okazo por trejniĝi kune kun tre kapablaj trejnistoj en internacia etoso.
Déjà en 2020, Vinyl Cosmo proposait au duo ukrainien-allemand Gélé, Genia et Lena Wilke de distribuer leur album dans son catalogue de musique en espéranto. Et enfin, cette année, juste après Yes, et grâce à l'aide de Tomio de la Perdita Generatio, tout s'est débloqué et la préparation de l'édition numérique de l'album de Gélé a pu commencer. Tra la Son Joy, à travers les rêves, est paru sur CD autoproduit en 2010 et il est reparu sous forme numérique le 24 février 2023. Le deuxième album, Sento Caoso, le chaos des sentiments, publié en 2013, est sorti en numérique le 24 mars 2023. L'album parle d'impressions chaotiques de la vie humaine, de joie, d'amour, de doute, de liberté après l'amour, etc. On écoutera après cette rubrique le morceau Nun Liberasmi, les albums de Gélé, arriveront petit à petit sur la plateforme musicale intercalée entre les autres éditions de Vinyl Cosmo déjà prévues dans les mois à venir.
Jam en 2012 Vinyl Cosmo proponis al Ukraina Germana duopo Gele, Genia kaj Elena Vilke distribui ilian albumoin en sia Esperanta muzik katalogo. Kaj finfine ĉi-jare tuj poste jes, kaj dank al helpo de Tomio de la Perdita Generacio, ĉio glastiĝis kaj ekis la preparado de la bita eldono de la albumoj de Gele. Tra la sanjoj aperis sur memel donita kodo en 2010, kaj ĝi reaperas bitforme la 24 de februaro 2023, ĉe Vinyl Cosmo. Sento Kaoso estas la dua albumo de Gele eldonita en 2013 sur Kodo aperis bite la 24 de marto. L'albumo temas pri haosaj imprezoj el vivo de la homo, pri ĝojo, amo, duboj, libereco post la amo, tango de amoro kaj tiel plu. Post tiu rubriko ni aŭskultos la kanton Nun liberas mi. La aliaj albumoj de Gele alvenos en la muzikan platformon iom post iom inter la jam planitaj aliaj eldonoj de Vinyl Cosmo en la venontaj monatoj: Clarissa, Chiara, Baroque Projekto, Martin kaj la Talpoj kaj KTP.
Retrouvez tous les liens sur toulouse.oxeo.net à la page de l'émission du jour.
Tempo nia passis mia cara, già vi educis mentre longi mia cara, e vi calculis la errado mia cara, dai investiris mentre longi mia cara, che vi instruis mentre longi mia cara, che vi decidis por ni ambo mia cara, già vi pensis che vi estas tenerara, che non liberas mi, ma la vi emas mi, la vi congiugas mi, che vi tegas mi, che non liberas mi, ma la vi emas mi,
Seconde partie de l'interview de Xavi Alcalde en français sur les liens entre l'espéranto et l'anarchisme. Donc Xavi a été enregistré à la Toupine le lendemain de sa conférence du 10 mars dernier au Casal Català dans le cadre de CEMEO, la semaine de l'espéranto à Toulouse. Vous pouvez réécouter la première partie dans le podcast de l'émission 316 sur notre site toulouse.oxeo.net et vous pourrez réécouter cette partie dans le podcast numéro 317.
Jen la dua parto de intervjuo en la franca de Xavi Alcalde fare de Marion pri ligoj inter anarkismo kaj Esperanto. Xavi estis intervjuita en Tuluzo la morgaŭon de la prezento de sia libro dum semeo. Ĉiu parto estos resumita en Esperanto.
Tu es venu présenter un livre, Xavi, hier en catalan au Casal Català. De
oui,
quel livre il s'agissait?
Donc c'est une étude du rapport entre l'espéranto et l'anarchisme, surtout dans les premières décades de l'espéranto. Voilà.
C'est-à-dire les années 1887 jusqu'à la 1900 à peu près.
Oui, mais aussi quand j'ai toutes les années précédentes, c'est-à-dire les socialistes utopiques comme Cabet ou Fourier qui se sont intéressés aussi aux questions de la langue internationale.
Mmh. Avant même que l'espéranto
existe. Oui.
Est-ce que tu t'es intéressé à une région du monde particulière ou est-ce que tu as étudié les liens dans différents pays?
Non, moi je me suis intéressé en général au rapport entre l'espéranto et les mouvements ouvriers. Donc je parle beaucoup de la situation en France parce que la France c'était le centre de l'espéranto à cette époque, mais aussi je parle des autres pays, en Russie, en Espagne, mais aussi en Argentine, en Chine, un peu partout.
Tu as commencé aussi en parlant finalement d'une période ultérieure, de l'entre-deux-guerres aussi en Catalogne et des liens qui étaient aussi très forts.
Voilà. Oui, hier j'ai commencé en parlant de cette époque entre les deux guerres parce que c'est une époque quand l'espéranto était tellement diffusé entre les milieux ouvriers que c'est intéressant, je crois, quand on comprend que pendant les années 20-30, l'espéranto était utilisé et appris, étudié au milieu ouvrier, au moins dans la Catalogne, que c'est la région que je connais le mieux. Quand on comprend ça, on voit pourquoi c'est intéressant d'étudier comment c'est que tout a commencé.
Ouais, comment on en est arrivé là, est-ce que ce soit aussi diffusé dans ces milieux-là, aussi évident pour l'espéranto.
Est-ce que je peux te raconter une anecdote?
Oui, bien sûr.
Donc, je suis allé à la présentation d'un livre, c'est un roman, d'un ami de ma femme. Et le caractère, il est espérantiste.
Le personnage.
Merci. J'étais là, j'étais en train de parler avec l'éditrice du livre. Et l'éditrice, elle m'a dit, je m'intéresse à l'espéranto. Ah bon? Et pourquoi? Parce que j'ai découvert des lettres de mon père. Donc, il semble que mon père, il est allé à la Première Guerre mondiale. Il a trouvé un type russe. Ils se sont plus ou moins connus. Ils étaient amis pendant la guerre. Et ils ont décidé, les deux, d'apprendre l'espéranto pour continuer les rapports. Et donc, quand on a changé de maison, on a retrouvé les lettres qui s'étaient cachées entre ce type russe et mon grand-père en espéranto. Ces lettres, ils étaient cachés parce que pendant le franco, dans l'espéranto, c'était un truc qu'ils comprenaient qui était trop à gauche, peut-être. Et donc, il y avait beaucoup de monde qui ont détruit des matériels. Et aussi pour nous, ça c'est un défi parce que c'est beaucoup de sources. Et aussi, c'est une raison par laquelle beaucoup de monde maintenant, il ne sait pas que les parents ou les grands-parents étaient espérantistes. Il y a beaucoup de ces anecdotes.
Beaucoup d'histoires familiales.
Oui. J'ai fait déjà 11 présentations de livres. Toujours, il y a eu quelqu'un qui est venu pour me dire, pour me raconter de l'histoire comme ça. Aussi, il y a beaucoup d'espérantistes que je ne savais pas qu'ils ont appris aussi l'espéranto dans le milieu anarchiste. Et je ne savais pas. Je connaissais la personne comme espérantiste. Il m'a dit, et voilà, je suis espérantiste. Quand j'avais 17, 18 ans, je suis allé au syndicat. Ça m'intéressait parce que j'ai lu dans une revue beaucoup de personnes que j'ignorais ça parce que il parle toujours, il dit ça.
C'est beaucoup d'histoires familiales et on retrouve comment des lettres, peut-être des vieux cahiers, c'est quoi les sources que vous trouvez dans les familles par exemple, ou que vous ne trouvez pas parce que justement les des livres d'apprentissage peut-être aussi, des méthodes.
Oui, bien sûr.
Qui montrent que voilà, le grand-père, la grand-mère.
Il y a une autre anecdote en Valence. Il y a les neveux d'un type qui était fasciste. Il était fasciste. Et le neveu a trouvé un cadre d'apprentissage d'espéranto. Donc, selon. Il est aussi historien, donc il a beaucoup fait de la recherche à ce sujet. Et il a venu à cette conclusion que, selon lui, cette personne qui était fasciste, il avait appris l'espéranto pour s'infiltrer dans le milieu anarchiste. Oui, il a écrit un livre sur ça, donc, parce qu'il dit, il ne m'a jamais parlé de l'espéranto. Nous savons qu'il était infiltré. Donc peut-être, il a vu qu'à ce moment-là, pendant les années 30, donc l'espéranto était vraiment lié aux anarchistes. Il m'a dit, bah, si je veux fait croire que je suis anarchiste, peut-être c'est intéressant que j'ai appris un peu l'espéranto.
Ça montre bien que ça faisait partie du costume, du déguisement. Si on voulait se faire passer pour un anarchiste, c'était évident qu'il fallait connaître quelques mots d'espéranto ou en tout cas apprendre.
En tiu parto, Chave représente rapide sian libron la gravecon de esperanto en la jaroj 1910, 1920 kaj 1930 en la laborista mondo. Le racontas du anecdotoin de du familioi por illustri tiun facton. La kialoin de tiu facto le provas clarigi en sia libro.
Pritairu, marŝu antaŭen al ci, cia muzo kune iru, kaj vian paron skribu sur la strando. Cia muzo kune iru, kaj vian paron skribu sur la strando. Restas brileco de parolo tornado, restas la spuroj de aureolo caresado, cio cion in men surprisas, ciam vortoi stas flamoi flogantai. Cio cion in men surprisas, ciam gesto deam stas homba blo. Tairu, pritairu, levo sin super racu, fin de truci musico, la pleila stan remparoi dele nu. Fin de truci musico, la fella sta remparo in delle nu. Chi annebulas en ci trista marcia mondo, c'è la ronde la misfoioi, en la fonde la mirage, ien la trarecta nova pane, ien la al volco al nova rencontro, ien retunicias la paesaggio, chi anzi ci credi spre fin voyage. Alla grande coma famiglia, si sono in comuna mon sinfonia.
Vous écoutez toujours Esperanto Magazino sur Canal Sud 92.2 ou canalsud.net. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Pour nous réécouter, vous trouverez notre podcast sur toulouse.oxeo.net.
Et au niveau peut-être plus, moins familial, mais plus des organisations, peut-être on peut revenir un peu dessus. On a parlé de Malatesta qui avait proposé lors d'un congrès. Pourquoi, selon toi, c'était important l'espéranto pour ces penseurs? Quelle utilité ils y voyaient au niveau théorique ou pratique?
Alors, on doit penser qu'à ce moment-là, il n'y avait pas une langue internationale. Mm-hmm. Donc c'est un moment que le latin n'était plus la langue internationale, l'anglais n'était pas encore la langue internationale. Donc il y avait plusieurs langues qui étaient en train de lutter pour devenir la langue internationale. C'était le français qui avait un peu plus d'influence dans la diplomatie. C'était l'anglais qui avait d'influence au commerce, mais aussi l'allemand qui était très fort dans la culture, la science. Le russe c'était fort pendant une grande région, mais aussi les japonais étaient en train de s'expandir en Asie. Mm-hmm. Et à ce moment-là, vraiment, seulement les personnes qui étaient capables de communiquer en plusieurs de ces langues, c'était les personnes qui avaient la possibilité d'avoir des contacts internationaux. Mm-hmm. Alors, selon l'idéologie anarchiste, tout le monde est égal. Et donc, il faut que chaque personne ait la possibilité de communiquer avec chaque personne, mm-hmm. chaque ouvrier, travailleur des autres pays. Donc, l'idée de l'espéranto, ils ont trouvé d'une façon naturelle, mm-hmm. utile. Mm-hmm. C'est pour ça qu'ils sont... Ils sont soutenus cette langue, mais aussi parce que l'anarchisme c'est une idéologie antimilitariste, internationaliste. Voilà, Zamenhof était aussi pacifiste, internationaliste. Donc ils ont vu les mêmes valeurs qu'ils ont croyaient, qu'ils avaient.
Oui, ça faisait partie de la, on va dire, du discours internationaliste, parce que c'est vrai qu'au niveau théorique, on peut dire il faut être international, parler entre les peuples sans passer par les gouvernements, mais après, pratiquement, comment on fait?
Oui, donc, c'est
soit,
ça.
Soit on choisit une langue déjà peut-être plus difficile à apprendre, mais laquelle, soit ben justement on utilise une langue construite.
Parce que si on imagine par exemple une usine mm-hmm. avec 3000 travailleurs, mm-hmm. donc il y a un congrès international du mouvement ouvrier. Mm-hmm. C'est qui la personne qui représente cette usine? Mm-hmm. Donc c'est la seule qui parle français, anglais, allemand. Peut-être que c'est probable que c'est une personne qui n'est pas vraiment ouvrière, mais c'est de la bourgeoisie, oui, à gauche, mais oui. C'est probable que finalement la façon dans laquelle cet homme...
Il peut y avoir des biais de représentation.
Oui, donc il a ses propres intérêts et points de vue aura finalement beaucoup d'influence dans la réunion. Mm-hmm. C'est vraiment d'une façon démocratique, d'une perspective démocratique, c'est peut-être pas la chose la plus bonne, la plus démocratique.
La plus juste.
La plus juste.
La plus adaptée à des gens. En plus, il faut s'imaginer qu'à l'époque, je n'ai pas les chiffres, mais les gens travaillaient plus qu'aujourd'hui, et ils n'avaient pas forcément le temps de...
Oui, 12, d'apprendre. 14, c'est sort, même oui, le week-end. Donc c'est la seule possibilité pour eux, vraiment, d'apprendre une langue internationale, c'était l'espéranto.
Ouais.
Parce qu'après 12 heures de travail, c'est vraiment... tellement difficile d'étudier, par exemple, l'allemand. Mais l'espéranto, on le sait, c'est une langue, donc c'est difficile à apprendre, mais c'est beaucoup plus facile que les autres langues.
Voilà, donc ce critère de rapidité, d'efficacité est aussi quelque chose d'important pour le monde.
C'est ça.
On a parlé un petit peu des débuts de l'espéranto, des liens avec l'anarchisme, de l'entre-deux-guerres, notamment en Catalogne. Est-ce qu'on peut, c'était pas le thème de ton livre, mais est-ce que tu as des informations sur comment ça s'est passé après? Est-ce que les liens ont été maintenus après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut même dire de la situation actuelle? Est-ce que ces deux mouvements sociaux, l'espérantisme et l'anarchisme, continuent d'avoir toujours des liens, ou plus généralement peut-être avec le mouvement social? Donc la Deuxième Guerre mondiale arrive, qu'est-ce qui se passe dans ces mouvements?
Alors la situation maintenant est beaucoup changée, donc la situation c'est vraiment différent. Parce que l'anarchisme et aussi l'espérantisme ne sont plus un mouvement de masse. C'est une chose un peu différente. Alors, la Deuxième Guerre mondiale, c'était vraiment presque fatal pour les espérantistes et pour les anarchistes. Donc, Staline, Hitler, ils ont persécuté vraiment les espérantistes et aussi les anarchistes. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, la situation de l'anarchisme, par exemple, dans les blocs communistes, c'était pas possible d'être anarchiste. On a des sources, par exemple, d'autobiographies de personnes qui étaient très importantes pendant les mouvements ouvriers espérantistes, par exemple en Bulgarie, qui dit qu'ils ont été persécutés aussi après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pendant et après la Deuxième, mais maintenant, par le régime communiste, pendant Staline. Après Staline, la situation est changée un peu. Ça, c'était la situation au bloc communiste. Au bloc capitaliste, par exemple, il y a le cas en Italie. En Italie, le final des années 60, les années 70.
70,
je suis pas belge. Oui, c'est très connu. Le cas de Giuseppe Pinelli, c'est la mort accidentelle d'un anarchico, en français c'est...
accidentelle d'un anarchiste de Dario Fo.
Voilà, c'est une histoire
vraie, basée sur des faits réels.
Oui, c'était cet anarchiste qui était aussi espérantiste, mais espérantiste actif, il a connu aussi sa femme au cours d'Espéranto à Milan. Et il était très, très actif dans le milieu espérantiste, mais aussi anarchiste. Je crois que c'était le 12 de décembre de 1969. L'extrême droite, en connivence avec la police et les services secrets italiens, ils ont fait un attentat terroriste pendant une banque à Milan. Je crois qu'il y a eu 14 personnes qui sont mortes. Et la police a décidé que c'était un truc des anarchistes. Et trois jours après, on a dit que Giuseppe Pinelli il s'était lancé.
C'était le lanceur de la bombe. Enfin, on l'a accusé de...
Oui, non, mais non. On a dit qu'il s'était jeté.
Fenêtre. Oui, s'était suicidé en se jetant de la...
Oui, voilà. On a dit ça.
On a dit ça.
Pour ça, le titre de le livre de Dario Fo. Donc, c'est un exemple que j'utilise pour dire que parmi les anarchistes, à ce moment-là, n'a eu pas le soutien du gouvernement. C'était un contexte difficile. Donc, maintenant, les anarchistes, il n'y a pas beaucoup, pas comme les années 20 ou 30 à Barcelone. Mais je crois que je parle avec eux, ils ont un rapport de sympathie sur l'espéranto. Il n'y a pas beaucoup qui considèrent qu'il va être la langue du futur, mais ils sont, je crois, conscients que dans le passé, il y avait un lien tellement fort qu'il faut les soutenir. Par exemple, à Barcelone, maintenant, dans notre quartier, à Gràcia, c'est justement le centre libertaire anarchiste qui offre des cours d'espéranto gratuits pour le monde. Oui, un peu de rapport encore existe aujourd'hui.
En tiu parto ĉa vi reparolas pri la lingva kunteksto kaj la utileco de Esperanto kiun vidis anarkistoj en internaciaj rilatoj por ĝusta kaj demokratia komunikado alirebla al ĉiuj laboristoj kaj pro proksimeco de valoroj. Ĉa vi parolas iom pri la rilatoj post la dua mondmilito kaj la tiama situacio por esperantismo, anarkismo kaj iliaj rilatoj.
La spato sulla sulto lo calci la lipo mil da can calci la lipo mil da can c'è da rincanda coraggio vivi su posti chi su cam povera notte non può camisero fosso entero fosso entero può per lavori si attivo ne fumate non ci desper ne fumate non ci desper vivi su posti da tero e ci un lo ci un vetero povera notte non può camisero fosso entero fosso entero. Vedi sul mio visaggio ne c'è lo sempre cambigù, ne c'è lo sempre cambigù, agli escampo e li bugati, spatate blu, spatate blu. Povera Marteno, povera misero, fosso entero, fosso entero. Calchi a morto agli signi, che portano la borde di skin, che portano la borde di skin, i forzi tagliarsi a tonno, rapide porca sciantesi. Povera Marteno, povera misero, fosso entero, fosso entero. Mi fossi smegna si anto, buon rapide por casciante sin, rapide por casciante sin, cai porte mio omogeni, silenti li cusci chi sin. Povera Marteno, povera misero, torno su tero, torno su te.
Povera Marteno, povera misero, torno su tero, torno su te.
Povera Marteno, povera misero, torno su tero, torno su te.
Povera Marteno, povera misero, torno su tero, torno su te.
Et au niveau des organisations internationales, est-ce que tu as des infos sur justement comment, quelles sont les nouvelles langues de travail ou la nouvelle langue de travail quand il y a des anarchistes qui se retrouvent?
J'imagine l'anglais, les mauvaises langues, les mauvais anglais, comme partout.
Donc avec le même biais que peut-être. Certaines personnes qui vont
tout à
représenter.
Fait. Tout à fait, il y a beaucoup de monde. Oui. Je me souviens, par exemple, il y a l'année dernière, je suis allé à une conférence dans un centre libertaire, aussi du même quartier, mais un autre. Il y avait une présentation d'un film documentaire sur un truc en Hollande, je crois, en anglais. En anglais avec des sous-titres. Et après ça, la directrice, le régisseur.
La réalisatrice.
Réalisatrice, et merci. Elle était en Hollande. Donc, Elle disait, il y a personne qui a des questions en anglais, je peux. Donc, le public a disparu.
Ouais, personne n'avait des questions.
La seule personne capable de maintenir une conversation en anglais avec la réalisatrice, c'était moi, l'espérantiste. Donc, c'est une question bizarre. Ça c'est pas nouvelle pour toi, mais même les personnes qui parlent pas l'anglais, ils disent non, mais maintenant voilà, tout le monde parle l'anglais. C'est pas vrai, quand vient la situation, personne ne le parle.
Tout le monde l'apprend, mais ça veut pas dire que tout le monde est capable de le.
Donc, moi j'ai fait des questions, mais le public il est parti. Et je me suis dit, c'est le même public. Il me dit, moi, non, l'espéranto, maintenant, il n'a pas de sens parce que tout le monde parle anglais. Ah, voilà.
Ouais. Encore du travail à faire sur conscientisation, prendre conscience justement de cette dimension linguistique. Peut-être on a un petit peu perdu ça dans les mouvements anarchistes à l'heure actuelle.
Bien sûr, on parle que...
Comme partout, parce que c'est vrai qu'il y a tellement ce discours de l'anglais qui est une évidence.
on parle que à notre monde est possible, mais on n'imagine pas que à notre système de communication est possible.
Oui.
On croit maintenant que l'anglais c'est la seule possibilité, et donc si tu parles pas l'anglais, donc c'est ta faute, et tu es le seul. C'est pas vrai, mais il y a beaucoup de propagande à ce sujet. Oui.
À un moment en plus où les contacts internationaux sont plus facilités avec Internet, mais ça n'a pas remis en question dans quelle langue on communique ou on reçoit les informations.
La semaine dernière, on a fait une activité universitaire sur l'espéranto. Mm-hmm. Donc, il y avait, je crois, 6 hommes qui parlaient. Il avait une Québécois, une Brésilienne, Roberto Garbia qui venait de Madrid, et 3 Catalans. Les 3 Catalans ont parlé en catalan parce que c'était à Barcelone, et les autres ont décidé de parler en anglais. C'est vrai que nous aussi, qui nous sommes profs d'une université, nous parlons l'anglais. Mais le public, ils étaient espérantistes ou personnes intéressées à l'espéranto, mais pas vraiment universitaires, ils ne comprenaient pas l'anglais.
Mm-hmm. Ils auraient mieux compris peut-être le brésilien.
Mais bien sûr, parce qu'on parle l'espagnol et le catalan au moins, donc le français, le portugais, c'est de langue proche. Mm-hmm. Mais ce type, ils s'imaginent que tout le monde parle anglais. Pendant la question, on a dit, je pense que pour parler sur l'espéranto, pour parler de la justice linguistique, vous avez décidé de parler l'anglais. Ils ne savaient pas quoi dire. Vraiment, c'est une contradiction.
Une autre question qui n'a peut-être rien à voir avec ton travail à l'heure actuelle, mais je me souviens que dans ton activité espérantophone, une fois, lors d'un congrès, tu avais parlé d'une idée de développer des instruments d'évaluation de la justice linguistique. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité, ou est-ce que tu pourrais résumer, qu'est-ce que c'était un petit peu ton idée au moins parce qu'on parle d'injustice sociale, on peut mettre en avant des chiffres en disant tel pays est plus pauvre, telle population est... Mais c'est vrai, comment on peut dire que quelque chose est juste ou injuste linguistiquement? Est-ce que c'était ça l'idée?
Oui, il y a beaucoup de façons d'approcher ces questions, mais si on imagine, par exemple, quand un pays, la première chose qu'un nouvel pays fait, c'est de choisir une langue officielle. Mm-hmm. C'est comme ça. Alors, par exemple, quand l'Inde et le Pakistan, mm-hmm. ils se sont indépendisés, le Pakistan a dû choisir une langue officielle parce que c'est la chose qu'on doit faire toujours pour décider dans quelle langue on va faire l'éducation, la santé, la justice, tout ça. La plupart des habitants du Pakistan, ils parlaient l'ourdou. Donc, ils ont décidé de parler l'ourdou, d'utiliser l'ourdou. L'ourdou, c'était la seule langue officielle. Mais il y avait une communauté aussi grande aussi qui parlait le bangla. Depuis le moment que l'ourdou, c'était la langue officielle, les parlateurs de bangla, ils n'étaient pas citoyens au même niveau.
Oui.
Ils ne pouvaient pas travailler à l'administration de l'État. Mm-hmm. Donc,
ils étaient défavorisés par rapport aux locuteurs de la...
Voilà, donc c'était une situation de justice, d'injustice mm-hmm. linguistique mm-hmm. tellement forte qu'ils ont commencé un mouvement de proteste mm-hmm. qui finalement s'est transformé en mouvement indépendantiste qui finalement c'était la création d'un nouvel pays, Bangladesh. Mm-hmm. Le Bangladesh s'est créé parce qu'il y avait une injustice linguistique en Pakistan. Donc mon idée, c'était pas seulement mien. Donc, la première fois que j'ai entendu parler d'avoir un index, un indice, un indicateur.
Un indicateur.
Oui. Un indicateur sur la justice linguistique. C'était un chercheur, Michele Gazzola, il est italien, mais maintenant il travaille à l'université de Belfast. Donc, moi, que j'ai travaillé dans l'Institut catalan international pour la paix, je disais, si on doit, on veut éviter des conflits, parce que maintenant il y a beaucoup de conflits ethniques qui ont aussi une dimension linguistique.
Oui.
Si on a les données des les injustices linguistiques, quelle échelle on a, cette situation, on peut prévenir en avant et dire, on regarde dans ces pays en Afrique, je sais pas, donc il y a beaucoup de discrimination par rapport à la langue. Il faudrait de faire quelque chose avant parce que
ça peut créer dans quelques années des problèmes plus graves.
Ça, c'était l'idée, et je crois que il y a un groupe de chercheurs maintenant à l'université de Belfast avec Michele Gazzola et aussi des chercheurs internationaux, par exemple Marc Fettes au Canada, qui sont en train de développer cette idée. C'est difficile d'avoir les données de tous les pays du monde. Donc,
Mais c'est vrai que justement, c'est souvent une injustice qui est injustement peut-être sous-évalué ou qu'on ne prend pas en compte, alors que la langue, ça reste quand même quelque chose de super important pour des peuples, même au niveau individuel, de pouvoir parler sa langue maternelle, de pouvoir être discriminé sur sa langue, c'est quelque chose qui peut blesser ou qui peut être aussi importante que peut-être de ne pas avoir le même pouvoir économique ou les mêmes chances d'éducation. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-traiter ou sous-évaluer, justement.
Oui, tout à fait.
Ĉave en tiu parto parolis pri la nuna lingva situacio en anarkiisma mondo kaj pli ĝenerale pri la relative falsa bildo, ke ĉiuj kapablas nun komuniki en la angla. Li rakontis du anekdotojn pri la temo. Li ankaŭ parolis pri la projekto de taksado de lingva maljusteco.
Knopcino, maher knopcino, igras flagoj pro la malesper. Ili ruĉas pro kolero, ili nigras pro mizer. Ili ruĉas pro kolero, ili nigras pro mizer. En la montoj kaj en la valoj, sub la neĝoj kaj en la ven. Grupe niaj partizanoj jam malkuris ja. Knopcino, ma knopcino, en di luktis la partizan.
J'avais une dernière question, peut-être sur le sur ton approche historique et tes liens avec l'espéranto qui ne sont pas que professionnels et historiques, mais pourquoi tu penses que c'est important pour les espérantophones, pour le mouvement espérantophone, espérantiste actuel, de continuer à s'intéresser à l'histoire et pourquoi tu, quand il y a des congrès d'espéranto, ou pourquoi tu édites, parce que tu as aussi écrit des livres en espéranto sur l'histoire de la Première Guerre mondiale, enfin tu as pas tout seul, mais pourquoi ça reste important pour toi de documenter l'histoire du mouvement, parce que c'est pas quelque chose qui peut paraître évident. On pense plutôt à qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer l'espéranto aujourd'hui, demain. Qu'est-ce que l'histoire peut quand même nous apprendre, pourquoi c'est important, peut-être même par rapport à ça aussi.
Je crois que c'est important de connaître notre histoire parce que ça nous donne des arguments. Mm-hmm. On doit connaître les succès et les échecs pour parfois pas répéter l'histoire, mais aussi parfois pour essayer de le répéter, parce que oui, pour moi c'est un truc vraiment naturel. Je crois qu'on doit connaître notre histoire, parce que c'est bizarre qu'on parle sur des choses, mais on a pas les connaissances de l'histoire, et c'est bizarre.
Oui, ça te paraît évident.
Oui, je crois. Quand j'ai fait des conférences, je trouve que même les espérantistes, ils ne connaissent pas des choses que je crois qu'ils ils trouvent intéressantes.
Parfois, on répète aussi peut-être des bêtises, ou on dit des choses aussi un petit peu fausses. Et
oui.
C'est bien aussi d'avoir une approche aussi un peu plus rigoureuse sur l'histoire, et que ça qu'on parte pas dans des légendes aussi. Par exemple, est-ce que tu peux juste résumer quels ont été les livres en espéranto auxquels tu as contribué ou participé sur le mouvement pub?
Alors, je crois que c'était l'année 2018 qu'on a publié Andau Uno Yartcento, il y a
un siècle.
Justement sur la Première Guerre mondiale et la situation. C'est un livre intéressant parce qu'il nous donne une panoramique.
Un panorama.
Panorama. Mm-hmm. Panorama de beaucoup de pays sur le rapport sur les espérantistes, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Mm-hmm. Donc j'étais un des coordinateurs.
Coordinateur, oui, je pense.
Coordinateur du livre. Mm-hmm. Et aussi j'ai publié des chapitres dans son autre livre. Mm-hmm. J'aime pas beaucoup parler de mes publications, mais je dois le faire.
Et est-ce que tu as d'autres projets que tu peux peut-être dévoiler sans trop parler en détail, mais sur quoi tu travailles en ce moment, quelle période historique, quel sujet?
Alors, je m'intéresse beaucoup à la guerre nôtre, mm-hmm. qui a eu pendant les années 30, parce que c'était un moment...
La guerre d'Espagne, ce qu'on appelle...
Oui. Oui, justement, la guerre d'Espagne, un moment de diffusion de l'espéranto vraiment important. Mm-hmm. C'est un défi de l'étudier parce qu'il y a beaucoup de sources que pendant la guerre ou après la guerre, ils sont disparus. Mm-hmm. Mais ça m'intéresse beaucoup. Il y avait des espérantistes qui se sont battus en combat. Ça, c'est aussi une histoire intéressante. Mm-hmm. Je m'intéresse aussi à étudier la biographie de quelques de protagonistes ou des espérantistes qui ont participé à. Et par exemple, il y a cet homme de Barcelone, Eduard Vivancos, qui a une histoire fascinante. Je l'ai rencontré. Il y avait 95 ans, je crois. Mm-hmm. Il m'a raconté ses expériences pendant la révolution sociale à Barcelone et après la tranchée. Il était en train d'apprendre l'espéranto à ses camarades. Il a pratiqué aussi l'espéranto dans les camps français à l'exil. Mm-hmm. Il a rédigé un journal espérantiste pour l'association, un journal en espéranto pour l'association des jeunes anarchistes internationaux. Oui, après, il s'est exilié finalement à Toronto. Et là, il était vraiment important entre les espérantistes locaux qui. Il ne parlait pas l'anglais quand il est allé à Toronto, donc c'est l'espéranto qui l'a beaucoup aidé parce qu'il avait ce réseau, d'hommes, de camarades, de samideanos qui l'aidaient. Voilà, je suis en train d'écrire sa biographie.
Et je ne sais pas si tu avais participé, ou en tout cas ce qui existe aussi de cette époque, il y a la traduction, l'adaptation du livre de Marie-Hélène Méléndez sur Jaume Grau Casas, c'est il y a quelques années maintenant, qui est aussi intéressante pour voir les liens.
Ah, bien sûr.
C'est un livre. Lui, il n'est pas anarchiste, mais.
Oui, il a connu Vivancos dans le camp de Bram. Mm-hmm. Donc Vivancos m'a parlé sous de lui. Oui, c'est un homme, c'est un intellectuel. Mm-hmm. Au camp d'internement, les conditions étaient tellement dures qu'il écrit qu'il a survécu seulement grâce à l'aide des espérantistes internationaux, surtout les espérantistes françaises.
Mm-hmm. À Toulouse notamment, il a eu l'aide, je crois, quand il était au camp de Récibido,
c'est vrai.
D'une famille d'espérantistes.
Mm-hmm. Et oui, j'ai participé aussi à la publication de ce livre en espéranto. Et on est en train maintenant de rédiger la publication en catalan.
D'accord.
Je crois que je veux faire l'introduction. Et j'espère que l'année prochaine sera en espagnol aussi, parce que Jaume Grau Casas il a écrit beaucoup en espagnol, parce que dans le cas on ne pouvait pas écrire en espéranto ou en catalan, qui était la langue qu'il aimait le plus. Donc, il a écrit finalement en espagnol ou en français, même les lettres à sa femme.
Pour que ça passe la censure, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Sinon, ça ne serait pas sorti.
C'est un livre vraiment formidable parce qu'il parle de la condition de camp, de sa vie, mais il était écrivain. Donc il raconte ça d'une façon belle, si on peut dire. C'est de la littérature.
On avait lu, je crois, de ses textes à la chapelle il y a quelques années, lors d'une rencontre. Merci Xavi pour cette interview un peu longue,
merci à
mais
vous.
Très 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 intéressante.
Donc merci et à la prochaine.
À la prochaine.
Xavi fine parolis pri graveco de esplorado pri historio de la Esperanto movado kaj pri kelkaj libroj por kiuj li kunlaboris. Li ankaŭ parolis pri venontaj projektoj, ĉefe nuntempe pri la Hispana Enlanda Milito aŭ biografio de esperantisto Eduardo Vivancos.
L'agenda.
Agenda.
N'oubliez pas la réunion mensuelle ce vendredi 7 avril à l'espace associatif L'Envolée à partir de 18h. La réunion sera suivie du repas tchatch à partir de 20h. Comme d'habitude, chacun apporte un peu à boire et à manger et on partage en parlant en espéranto pour pratiquer dans la bonne humeur.
Venu la sepan de aprilo al nea monata kun sido je la dek oka kaj al la manĝo klaĉo je la dudeka. Ciu portas iom por trinki kaj manĝi kaj ne kundividas parolante Esperanton por praktiki en bona etoso.
Mardi 11 avril au Rolier Rangel, un atelier sur la langue italienne. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à venir. Et après, on pourrait se retrouver au Café Cactus à 19h30.
Mardon ladec unuan de aprilo ocasos en Rangel ateliero pri itala lingvo. Se vesci volemas, ne hesitu veni, kai posteni po vas, kiel kutime, iri alla lingvo cafeo le Cactus por praktiki la italan au aliaen lingvoin.
Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxeo.net.
Dankon pro via auskultado. En nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn kaj povos reauskulti aŭ elŝuti la elsendon.
On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonsoir, bonan vesperon.
Gis.
Esperanto. Esperanto. Esperanto.